c'est la boîte à musique.
Bonjour, c'est Anne sur Altitude FM. Venez avec moi à la découverte d'un compositeur de l'époque romantique. Le mois dernier, je vous avais proposé de nous retrouver pour évoquer la fameuse tétralogie de Wagner. Connaissez-vous cet air ? C'est la deuxième partie de la Chevauchée des Valkyries, dont je vous avais fait écouter la première partie le mois dernier. Ces jeunes guerrières parcourent le ciel sur leurs chevaux ailés pour ramener les âmes des morts au paradis des dieux, le Valhalla. Cette musique emblématique, qu'il faut dissocier des nazis, même s'ils l'utilisaient, fait partie d'un ensemble formant l'histoire de l'anneau Nibelung, der Ring des Nibelungen en allemand. On l'appelle tétralogie en référence à la tragédie grecque, puisque le mot tétralogie vient du grec tétra, 4, et logos, parole. C'est un ensemble de 4 pièces que les auteurs de tragédies présentaient au concours de théâtre lors des fêtes consacrées à Dionysos dans la Grèce antique. Prenons ce modèle, la tétralogie de Wagner compte l'histoire de l'anneau maléfique en 4 opus. L'or du Rhin, la Valkyrie, Siegfried et le crépuscule des dieux. Wagner était son propre librettiste. Il écrit le texte de la tétralogie à partir de 1848, année des révolutions du printemps des peuples en Europe. Avant de composer la musique de son opéra, il puise son inspiration dans divers contes et légendes. La légende de Siegfried, épopée allemande de la fin du XIIe siècle, la chanson des Nibelungen, les nains, épopée germanique nourrie de contes scandinaves, les chants de l'Edda, livre islandais où il découvre les personnages de Votan, roi des dieux, et de ses filles, les Valkyries, vierges combattantes qui recueillent l'âme des chevaliers morts au combat. Il s'inspire aussi du mythe grec de l'anneau de Gygès, connu grâce à Socrate, et théorisé par Platon dans la République. À la suite d'un violent orage, la terre s'ouvre, et le berger Gygès s'y engouffre. Il y découvre un cheval d'airain, dans lequel gît un homme immense qui porte une bague. Il la lui vole et la met à son doigt. On est en plein dans Tolkien. En tournant machinalement l'anneau, il se rend compte qu'il peut devenir invisible, et redevenir visible en le tournant dans l'autre sens. Il profite de cette invisibilité pour tuer le roi et s'emparer de son trône, non sans avoir séduit la reine. Et là, cela nous fait penser à Œdipe. Pour Socrate, ce mythe signifie que vous pouvez cacher aux autres une action répréhensible, mais jamais à vous-même. Pour Platon, c'est la question de ce que l'on fait si l'on est assuré de demeurer impuni. Est-ce qu'on en profite pour commettre des crimes, des abus de pouvoir ? Mais dans ce cas, l'anneau se retourne contre vous. C'est la malédiction de l'anneau. Il peut, s'il est mal utilisé, asservir celui qui le détient. C'est donc une sorte de pierre philosophale. C'est-à-dire que pour profiter de sa puissance, il faut l'utiliser à bon escient. Et même si elle peut accorder la richesse à son porteur, c'est à la condition de renoncer à l'amour. Ce n'est pas un pouvoir si intéressant que cela, somme toute. L'anneau est l'œuvre de toute une vie, car Wagner achève le Crépuscule des dieux 25 ans après l'avoir commencé. Cette longue gestation est nécessaire pour lui permettre de clarifier ses idées. Sa première idée d'ensemble, c'est de proposer une immense fresque révolutionnaire pour dénoncer le pouvoir de l'or, qui représente le capital, jalousement gardé par Fafner, incarnation du capitalisme, menaçant de dominer le monde devant l'impuissance des intellectuels et des penseurs, qui eux sont personnifiés par des dieux. Siegfried, lui, c'est le révolutionnaire pur qui instaurera un ordre nouveau dans ce monde dégénéré. Sa deuxième idée, il la doit au philosophe Schopenhauer et à ses propres échecs et désillusions. Car pour Schopenhauer, l'unité originelle du monde est brisée par la volonté de puissance. Le dieu Wotan, au centre du drame, représente la philosophie du renoncement et du néant. Dans cette œuvre, Wagner veut aussi représenter la naissance, l'évolution et la fin du monde. Depuis l'âge des pierres et des métaux, symbolisé par l'or du Rhin, avec un peuple de dieux, de géants, de nains, de dragons, de monstres, jusqu'à la création du genre humain, personnifié par Siegfried, et enfin l'anéantissement, dans le crépuscule des dieux, où tout s'effondre. Le Rhin sort de son lit, les filles du Rhin réclament leur anneau, le Valhalla, construit par Wotan, s'écrase à terre en proie aux flammes, car il est le fruit de l'avidité et de la corruption. Je vais évoquer deux de ces quatre pièces. La Valkyrie, histoire de Brunhild, la fille préférée de Wotan, et Siegfried, l'histoire du héros sur qui tout le monde compte. Dans la Valkyrie, le drame naît de l'amour incestueux de Siegmund et Sieglinde, des jumeaux qui s'ignorent lorsqu'ils se rencontrent fortuitement. Et en fait, ce sont les enfants que Wotan a eus avec une mortelle. Du coup, sa femme légitime veut la perte des amants. Elle ordonne à Wotan de faire mourir Siegmund. Mais il s'en sent incapable. Et il demande à sa fille préférée, Brunhild, une guerrière émérite, une valkyrie, de le livrer. Mais celle-ci ne peut s'y résoudre. Elle ose désobéir à son père en protégeant Siegmund, son demi-frère en fait. Pour la punir, Wotan la condamne à sommeiller sur un rocher entouré de flammes, dont seul un héros peut la délivrer. Mais c'est la mort dans l'âme qu'il condamne sa fille bien-aimée. Adieu, vaillante et noble enfant, toi, ma fierté. Dois-je ne plus te revoir chevaucher à ma droite ? Dois-je te perdre, toi que j'adore ? Qu'un feu nuptial pour ta couche s'allume, que nulle infâme n'ose s'approcher, que seul un homme plus libre que moi, le Dieu, t'éveille. Écoutons ces adieux déchirants, chantés par Brin Terfel, basse, avec la Philharmonie de Berlin, sous la direction de Daniel Hardin. que c'est Siegfried qui se porte au secours de Brunhild, alors que Wotan avait d'autres plans pour lui. Il comptait sur lui pour sauver le monde de la malédiction de l'anneau. Siegfried est le fils de Sigmund et le petit-fils de Wotan, mais il ignore cette ascendance, car il a été adopté par le nain Mime. On retrouve l'obsession de Wagner pour les origines. Mime lui révèle qu'il est le fils de Wotan. Siegfried a capturé un ours vivant pour faire peur à Mime, afin que celui-ci lui forge une nouvelle épée. Mais elle ne lui convient pas. Il préfère ressouder lui-même l'épée magique, ayant appartenu à son père. Vous allez entendre Siegfried chanter « Oh 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 hey » tout en battant l'enclume avec son marteau, par le ténor Clay Healy. Siegfried obtient en combattant des pouvoirs tels que celui de comprendre le chant des oiseaux. L'un d'eux lui parle de Brunhild qui dort sur un rocher cerné de flammes et lui montre le chemin pour la délivrer. Siegfried tue le gardien de l'anneau avec l'épée. Il s'empare de l'anneau et traverse le rideau de feu pour réveiller Brunhild. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et Brunhild abandonne la vie éternelle pour la passion humaine. Elle annonce la fin des dieux. C'est dans le crépuscule des dieux que la tragédie finale arrive. Siegfried est tué par traîtrise, par derrière, par celui qui cherche à s'approprier la bague. Écoutons la marche funèbre. Magnifique lamento orchestral, représentant le cœur grec qui se lamente sur la mort du héros.
Thank you.
Le sacrifice ultime pour tenter de sauver le monde vient de Brunhilde, qui monte sur le rocher funéraire pour mettre fin à la malédiction. Comme Senta dans le vaisseau fantôme et comme Isolde, dont nous avions parlé le mois dernier. Voici Brunhilde se préparant à mourir. Wagner voulait que son œuvre soit représentée dans un lieu spécifique, une réplique moderne des théâtres grecs. Il fait construire à Bayreuth le Palais des Festivals. Son idée, c'est de fonder un lieu qui favorise la communion entre les spectateurs et la scène. Il fait alors construire un amphithéâtre avec une fosse d'orchestre rendue invisible par une sorte de couvercle qui tempère aussi les éclats des instruments de telle sorte que les chanteurs n'aient pas assez poumonné pour les couvrir. La première pierre est posée le 22 mai 1872, le jour de ses 59 ans, et inaugurée 4 ans plus tard, avec la 9e symphonie de Beethoven sous sa direction. Il se fait construire dans la même ville une villa appelée Wahnfried, la paix des illusions. La première représentation du Ring est un triomphe, mais la faillite guette, car il a coûté très cher. C'est grâce aux subventions de l'État de Bavière et aux mécènes comme Louis II que le festival peut continuer. Alors Wagner disparaît à nouveau pour créer une œuvre méridionale cette fois, qui montre que le soleil de l'espoir finit toujours par percer les sombres nuées nocturnes. Il s'agit de Parsifal. L'action se déroule au château de Montserrat, dans les Pyrénées espagnoles. Parsifal, de l'arabe pur innocent, est un chrétien attiré par le catharisme que chantent les troubadours et les Minnesänger allemands. Encore eux, la boucle est bouclée depuis Tannhäuser. Deux univers s'affrontent, l'idéalisme des chevaliers du Graal et le luxe du royaume de Klingsor, toujours les deux pôles opposés. Écoutons le prélude de Parsifal.
Thank you.
Parsifal, l'œuvre ultime, est présentée pour la première fois à Bayreuth en août 1882, quelques mois avant la mort de Wagner en février 83 à Venise. Son corps est rapatrié à Bayreuth pour des funérailles grandioses. Après la mort de Wagner, sa veuve Cosima prend la direction du festival. Elle en construit le répertoire tel que le souhaitait Wagner et tel qu'il existe encore aujourd'hui, avec des représentations de Tristan et Isolde, Tannhäuser, la tétralogie, le Wesen Fantôme. Elle rembourse les crédits contractés auprès de l'État bavarois. Elle réussit à désendetter le festival. Leur fils, qu'ils ont appelé Siegfried, dirige ensuite le festival. Aujourd'hui, le festival de Bayreuth a toujours autant de succès. Les 30 représentations de 2024 ont affiché complet pour un total de 58 000 spectateurs. Certaines mises en scène, comme celle de Patrice Chéreau en août 80, ont pu choquer le public, car il place l'action au XIXe siècle, celui du capitalisme et de l'industrialisation, avec le Rhin représenté en barrage hydroélectrique, les filles du Rhin, les Ondines, en prostituées du Second Empire, et Pierre Boulez était à la direction. Ce fut un triomphe. 90 minutes d'applaudissements, sans rappel. Mythologie grecque et germano-scandinave, saga nordique d'Islande, poèmes allemands du Moyen-Âge. Dans toutes ces influences croisées, Wagner puise son inspiration. Il part à la recherche de ses propres démons, élevés au rang de symboles universels. Car c'est bien cette quête de l'harmonie universelle qui court dans toute l'œuvre de Wagner. Pour cela, il a créé un univers musical et dramatique nouveau, révolutionnaire. Même son histrionisme, c'est-à-dire sa volonté d'attirer l'attention, d'être tout le temps au centre, sert de substance à sa pulsion artistique. Car il se reconnaît dans ses personnages, comme celui de Tannhäuser, prenant ses désirs pour des réalités, se transmuant de poète en chevalier du Graal, toujours en quête d'amour et de perfection. Wagner nous offre l'apothéose du drame musical romantique. Je vous donne rendez-vous sur Altitude FM tous les troisièmes jeudis du mois à 17h.